Mais Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité, Seigneur. C'est toi qui nous l'as donnée, Seigneur. Merci que cette parole entre dans notre cœur et que tous les jours de notre vie, Seigneur, nous la respectons et nous la mettions en pratique. Dans le nom de Yeshua le Messie. Amen. Alors, la dernière fois, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé de quoi ? Vous vous souvenez ? Ça commence toujours mal, ce genre de questions. Ah, il y en a bien qui ont pris des notes. Hein ? Ah, c'est bien. Qui est mon prochain ? C'était la question, c'était qui était mon prochain ? Parce que on connaît la loi de Moïse. Elle se résume en trois choses qui regroupent tout. C'est écoute Israël, l'Éternel, vous connaissez ? Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Erad. Écoute, Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est unique. Et après, tu aimes, dans l'ordre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes sont dans ses commandements. Alors on a vu qui est mon prochain, pour ceux qui n'étaient pas là, ce sera que partie remise. Alors, le tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas une invention du christianisme. Ce n'est pas une invention du christianisme, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la loi de Moïse. Non, parce que des fois, on peut penser qu'il y a des choses qui se sont rajoutées, mais en fait, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé, tout est dans l'Ancienne Alliance. Enfin, Ancienne Alliance, je ne sais pas si elle est vraiment si ancienne que ça. Tout est dans l'Alliance, avec un S. Alors, je vous avais parlé un petit peu, moi, de ce que j'avais vécu pendant le confinement. Je vous avais dit que j'avais fait une remontée dans le temps, que j'ai été creusé un petit peu dans les sentiers anciens, ce que la Bible nous demande de faire, remonter dans les temps anciens, revenir dans les sentiers anciens, pour savoir d'où on vient. Vous savez qu'en ce moment, il y a tout un mouvement qui voudrait tirer un trait du passé. Ce n'est pas en faisant disparaître les traces du passé qu'on va aller loin dans l'avenir. Le passé est le passé. Il a parfois été glorieux, il a parfois été scandaleux, mais il ne faut pas tirer un trait comme ça. C'est pas parce que c'est loin des yeux, loin du cœur. Non, le passé, il faut le voir avec... vérité, le passé, passé, voilà. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec Dieu. Le passé est pardonné, mais il reste néanmoins le passé. Et on vit aujourd'hui, et demain appartient à lui-même. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire un peu ce que moi, j'ai vécu. Vous savez que depuis certains temps, j'essaye de lire la parole de Dieu d'une manière nouvelle. Parce que, quand on lit la parole de Dieu, on lit, mais on lit avec ce que l'enseignant qui vous l'a enseigné la première fois vous l'a donné. Et parfois, on lit des choses, on croit savoir, on croit comprendre, mais on ne comprend pas. on passe complètement à côté de ce, du vrai, de ce que le texte dit. Et même moi, maintenant, pourtant j'ai un peu d'expérience, je me suis aperçu qu'il y avait des textes que je comprenais comme étant des textes, ouais, c'est du fondement. Et une fois, je le lis d'un œil nouveau, avec une connaissance que j'ai eue du passé, que je ne connaissais pas, parce que j'ai été voir un peu comment ça se pratiquait à l'époque, et je me dis, mais il ne parle pas de ça, il parle d'autre chose. Alors, on va commencer par lire le premier, Marc 7, vous connaissez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. C'est l'histoire de... Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. C'est pas bien, hein, à l'époque du Covid-19, il faut bien se désinfecter les mains. Bah déjà, à cette époque-là, c'est... Parce qu'il faut savoir, or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait des aspersions rituelles, et ils ont beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, les cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» La réponse de Jésus, c'est « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi, et c'est en vain qu'il me rende un culte. » En enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous êtes donnée. Vous faites bien d'autres choses encore. Et il appela de nouveau la foule et dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien du dehors qui entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand on lit ce texte, on voit qu'il y a deux choses. On voit qu'il y a la tradition des hommes. On parle, hein, tradition des hommes, tradition des anciens. Et on voit qu'il y a le commandement de Dieu, la loi écrite. Et quand vous regardez tous les textes de Jésus, il a souvent été contre la tradition des hommes, il a souvent condamné la tradition des hommes, mais il a toujours respecté la loi écrite. Et là, on voit qu'il n'est pas contre le commandement de dire « tu honoreras ton père et ta mère », heureusement d'ailleurs. Mais tout ce qui est loi écrite dans la Torah, Jésus l'a respecté. Alors qu'est-ce que c'est que la tradition des hommes? C'est la loi orale. Cette loi orale a été, à l'époque de Jésus, elle était encore orale. Et elle a été écrite 400 ans après Jésus-Christ, entre 300 ans et 400 ans après Jésus-Christ, et ça s'est appelé le Talmud. Mais bon, ça c'est pour le judaïsme. Et le Talmud a façonné le judaïsme jusqu'à maintenant. Mais on n'est pas meilleur que les Juifs. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il ne dirait pas « Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes ?» Moi, je pense qu'il y a un Talmud chrétien. Et plus je m'avance dans le temps, plus j'en suis persuadé. Le Talmud chrétien, c'est quoi ? Vous savez que au début, il n'y avait quasiment aucune différence entre les Nazaréens, on les appelait comme ça, donc ceux qui croient au Maran Yeshua, c'est-à-dire que Yeshua c'est un rabbin, mais plus que ça, qui croient que Yeshua était le Messie. Et donc, il y a eu une secte de plus. Alors, secte, il n'y a rien de péjoratif. Quand je parle de secte, c'est parce qu'on pense maintenant à Krishna et tout ça. Secte, ça veut dire école de pensée. À l'époque, dans le terme étymologique, une secte, c'est une école de pensée. Et les Juifs, déjà, à cette époque-là, ils en avaient plein. Il y avait les Sadducéens, les Pharisiens, les Esséniens. Et chez les Pharisiens, il y en avait 7 écoles de pensée. Il y avait Hillel, Shammai, et puis il y en avait 5 autres. Et il y en a eu une nouvelle, qui n'est pas vraiment une école de pensée, mais une révélation, celle de Nazaréen, qui disait et qui croyait que Jésus était le Messie, qui s'est sacrifié, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité des morts, et qu'en lui, on a la justification de nos péchés. Et ça, ça a marché pendant, je dirais, entre la mort de Jésus, en 33 après Jésus-Christ, après lui-même, jusqu'à 135, l'année 135. Qu'est-ce qui s'est passé en 135 ? Il y a eu quelqu'un qui s'appelait Bar Corba, un juif, je crois qu'il était dans le secte des Zélotes, et qui a dit, bon, moi, je suis le Messie, et je vais chasser les Romains de la terre d'Israël pour la purifier. Et il a fait beaucoup d'adeptes, et au lieu de chasser les Romains de la terre d'Israël, bah il s'est fait crucifier aussi, mais pour des mauvaises raisons, et Jérusalem a été complètement rasée. C'est là que Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Et a changé de nom et est devenu du coup Alea Capitolina par Adrien. C'est Adrien qui avait tout rasé. Il a changé le nom de Jérusalem. Il a dit « J'effacerai de la face du monde le souvenir du royaume de Judée. » Les Juifs, enfin les Judéens, je ne veux plus en entendre parler. Donc Jérusalem, on change de nom, ça devient une ville romaine. Et la Judée devient un autre nom. La Palestine, ce qui vient des Philistins, mais bon, Palestine, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire envahisseur. Les Philistins, c'était des envahisseurs, en fait. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Mettez-vous à la place des Nazaréens, je ne les appelle pas chrétiens volontairement, parce que je n'ai pas envie de les appeler chrétiens. On leur dit que Bar Corba est le Messie, qu'il faut se joindre à l'armée d'Israël pour combattre les Romains, parce que Bar Corba est le Messie. Vous seriez à leur place, qu'est-ce que vous faites ? Ben non, Bar Corba n'est pas le Messie, puisque le Messie c'est Yeshua. Donc non, on se joint pas à votre rébellion, puisqu'on sait que de toute façon c'est un faux Messie. C'est ce que Jésus avait dit, d'ailleurs derrière moi il viendra des faux Messies. Et donc du coup, les Nazaréens se sont fait chasser des synagogues. Parce qu'ils étaient ensemble au début, la synagogue, c'était la synagogue. Hein. Il y avait Nazaréens, c'était une façon de penser. Et ils se sont fait chasser parce que c'était des traites à la nation d'Israël. Ça, c'est pour la partie origine. Si vous ne savez pas pourquoi le christianisme s'est séparé du judaïsme, ça a commencé comme ça. Après, vous avez eu un bel empereur qui s'appelait Constantin. C'était en l'an 300 et des bananes. Constantin, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait le contraire. Lui, il a fait. Alors, on en lit dans nos livres d'histoire. Ouais, c'est superbe, après toutes les persécutions, Constantin a christianisé l'Empire romain. C'est écrit comme ça dans le livre d'histoire. En fait, c'est pas tout à fait ça. Constantin a romanisé l'Église, les Nazaréens. Et lui aussi, c'était Rome, hein. Rome, ils aiment bien faire ça, a voulu faire perdre toute trace de judaïsme dans l'Église. En disant, bah, par exemple, le samedi, le Shabbat, bah, ce sera le dimanche. Pâques, ce ne sera pas le jour de la Pâque, mais ce sera une semaine avant ou une semaine après. Ça, je ne sais plus comment dans ce sens ça marche. Les fêtes, on n'en parle pas. Par contre, on met Noël, qui est une fête païenne. On met d'autres fêtes autour. Et puis la loi de Moïse, ben non, on tire un trait. Et on paganise l'Église. Et pire que ça, on dira maintenant tu adoreras telle statue. Tous les dieux romains, Hermès et tout ça, Diane, Artémis et tout ça, sont devenus des saints dans l'Église. Tous les saints que vous voyez dans les églises, que ce soit à commencer par la Vierge Marie, c'est des anciens dieux romains qui ont été mis dans l'Église. Et on est parti dans une descente aux enfers. C'est-à-dire on a coupé notre racine, alors que Paul, si vous lisez bien l'épître aux Romains, et c'est l'épître aux Romains, ce n'est pas l'épître aux Corinthiens ou n'importe quelle épître, déjà à l'époque de Paul, si Paul écrit cela, c'est qu'il y avait déjà un commencement de déviation, en disant, attendez, vous êtes sur la racine d'Israël. C'est l'olivier qui vous porte, c'est Israël. N'oubliez jamais ça, ne vous glorifiez pas aux dépens des branches qui ont été retranchées, celles qui n'ont pas cru au Messie. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est la racine qui vous porte et que vous n'êtes pas un truc à côté. Ça a été oublié, puisque l'Empire romain a complètement. Aussi bien Hadrien avait rasé l'Empire, physiquement le royaume de Judée, Constantin, lui, a rasé spirituellement toutes les racines juives d'Israël. Alors qu'est-ce que la loi? Je vous l'ai dit. La loi, c'est écoute déjà, écoute Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le cœur de la Torah. Tout ce que vous pouvez y rajouter après, ça vient des hommes. On voit maintenant la Torah. Bon, une question que j'avais posée, c'est les 613 mitzvot de la Torah, de la loi de Moïse. Combien il y en a réellement qui viennent de la loi écrite de Moïse? J'ai pas la réponse encore, mais je vais l'avoir un jour. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, on peut le lire dans Matthieu 5. Au verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour établir. Là, c'est écrit accomplir, vous avez ça dans votre Bible, accomplir, mais le vrai mot, c'est établir. C'est-à-dire, établir, c'est donner l'explication véritable du commandement. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres de faire de même, il sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et enseignera celui-là et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vous invite à continuer à lire le chapitre 5 de Matthieu, parce qu'il donne des explications plus précises après de comment il voit la chose. Jésus parle de quoi là? De la loi écrite, puisqu'il parle de iota, de iode, donc c'est la plus petite lettre hébraïque, hein, iode, c'est la petite... Pas un iota ne disparaîtra jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, est-ce que le ciel et la terre ont passé? Non, ça veut dire que la loi écrite, telle qu'elle a été écrite, est encore d'actualité pour Jésus. C'est quoi? Après, il parle de justice. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En fait, moi, avant le confinement, je mettais la loi de Moïse tout dans le même panier. C'est-à-dire, c'était un truc super lourd, super contraignant. On voit les juifs orthodoxes, où ils ont tout le droit de rien, finalement. Tu dis, c'est contraignant. Mais je viens de découvrir que ce n'est pas la loi de Moïse. Seulement. C'est parti de la loi de Moïse, mais c'est un peu comme nous, avec nos statues et nos saintes vierges et tout ça, et nos pèlerinages, et c'est pareil. Il y a certaines religions chrétiennes qui sont hyper contraignantes. Mais la loi, à l'origine, que dit Jésus de la loi? Même que dit David, le roi David de la loi? Je fais de ta loi mes délices. Combien j'aime ta loi. Combien, fait, et il y a un autre passage, c'est fais de l'éternel tes délices. Combien j'aime pratiquer tes commandements. C'est pas combien j'aime me morfondre dans des lois humaines. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire j'aime les commandements. Combien j'aime appliquer ces choses. Jésus a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mes instructions, car mon fardeau est doux et léger. Il parle de quoi là? Qu'est-ce qu'il a donné comme instruction, Jésus? Il parlait de la loi de son Père. Mais la loi, la véritable loi, la loi écrite. Il y a un passage dans Jérémie, vous le connaissez tous. Jérémie 31, vous le connaissez, vous savez où je vais en venir. On va le lire. Verset 34. 31, pardon. 31. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël en ces jours-là. Je mettrai ma la loi de Moïse dans leur cœur. Au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Là, son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, la descendance d'Israël aussi cessera. Il faut toujours d'être une nation devant moi. Après, il y a une promesse. C'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet sur l'avenir d'Israël. Il y a une promesse, c'est la loi. Si les lois du jour et de la nuit, des lunes, des nouvelles lunes et tout ça, viennent à cesser, alors Israël cessera aussi d'être une nation devant moi. Et là, on sait que pendant 2000 ans, un peuple qui a été persécuté toutes les générations, dont la dernière c'était la Shoah, a survécu. Regardez. Donc Dieu est fidèle vis-à-vis de la loi de Moïse. On va dire, mais moi ça concerne Israël. Ça concerne Israël, oui. Alors j'ai fait aussi un autre truc pendant le confinement. On fait plein de choses pendant le confinement. J'ai relu Ézéchiel 37. Vous connaissez Ézéchiel 37? Ça parle de quoi Ézéchiel 37? La première partie, vous la connaissez tous, c'est la vision des ossements desséchés, qui est l'histoire d'Israël durant ces 2000 ans. Où Dieu a rassemblé les os, que tout le monde disait, voilà, la main d'Éternel fut sur moi, l'Éternel me dit de sortir en esprit et me déposa au milieu d'une vallée qui était remplie d'ossements. On fit passer tout autour d'eux. Auprès d'eux, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et tu diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces os, voici, je vais faire venir en vous un esprit, vous vivrez. Je placerai en vous des nerfs et je vous ferai pousser de la chair sur vous et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Voici qu'il y eut un frémissement. Les os se rapprochèrent les uns des autres, et je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, la peau les recouvrir par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Et je dis, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit vint sur eux, ils reprirent vie et se tint sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Et je vous ferai revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je ferai remonter de vos tombes au mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai sur votre territoire. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. C'est ce qui s'est fait. 1948. Israël, qui était dispersé dans toutes les nations, est revenu sur son pays, sur le territoire d'Israël, tel qu'il est dit. Les os se sont rassemblés. Dieu sait, on croit que c'est facile, comme ça on pense que c'est un peuple monolithique, on va dire. Mais il y avait les séfarades, il y avait les ashkénazes. Quel est le point commun entre un ashkénaze et un séfarade? Il y en a un qui est d'Europe de l'Est et l'autre qui est arabe. Il vient de l'Afrique. Quel point commun entre un juif éthiopien et un juif scandinave? Ça n'a pas été facile. Les os se sont rassemblés. La chair a poussé. Et c'est une nation unie. Bon, de temps en temps, ils se disputent un peu aussi. Hein. C'est pas non plus, c'est pas le plus beau des pays non plus. Hein. C'est comme chez nous. Il y a deux juifs, il y a cinq opinions. Mais ils ont réussi quand même à tenir et à devenir un peuple uni. Unis entre eux déjà, mais même unis avec les Arabes qui les entourent. On ne croit pas qu'il n'y a que des Juifs en Israël. Hein. Il y a 20% d'Arabes palestiniens. On ne veut pas les dresser les uns. Il y a des Druzes, il y a des Samaritains. Vous savez, les Samaritains, ça existe encore. Et alors, bon, voilà, j'ai dit, on est là. Puisque depuis longtemps, je dis qu'on soit comme les fils d'Issachar, qu'on connaisse les temps et les moments. Dans la prophétie, on arrive là. Israël, bon, c'est 1948, c'est pas vieux, c'est 72 ans. Et qu'est-ce qui se passe après, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer après? Ben, on continue la prophétie. La parole me fut adressée en ces mots, toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus à Juda et aux fils d'Israël qui lui sont associés. Prends une pièce de bois et écris dessus Yehuda, ça veut dire juif. D'un côté, prends une pièce de bois, écrit juif. Et les fils d'Israël qui leur sont associés. Prends une autre pièce de bois et écrit dessus à Joseph, bois d'Éphraïm, et à toutes les nations, à toute maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre, que tu n'aies qu'une seule pièce de bois, de sorte qu'elles soient unies dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple diront, que nous expliqueras-tu et qu'est-ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et des tribus d'Israël qui lui sont associées, et je joindrai le bois de Juda et je ne formerai qu'un seul bois. Ils seront unis dans ma main. Les pièces de bois sur lesquelles tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel, me voici, prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, je leur ferai revenir sur leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles et leurs abominations et par tous leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et c'est là que c'est important. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils et les fils de leurs fils à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Et je les établirai, je multiplierai. Et j'établirai un sanctuaire au milieu d'eux, mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, comme mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. J'avais prêché là-dessus, je me souviens. C'est quoi Éphraïm? Vous savez qu'Éphraïm, c'est le fils, avec Manassé, c'est un des fils de Joseph. Joseph, là, il n'a pas appliqué la loi, contraint et forcé, hein, puisque de toute façon, il était en Égypte, il avait été vendu en esclave en Égypte. Et il a épousé la fille d'un prêtre. Je crois que le dieu, c'était On. La fille d'un prêtre. Une prêtresse. Païenne. Pour un juif. Païen. Une goye. Donc selon la loi, les enfants qui naissent d'une goye n'est pas juive, n'est pas juif. Ce sont des enfants, même si le père est juif, eux, rien à faire avec Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Vous l'avez lu, c'est dans Genèse 48, au verset 5, dans le livre de la Genèse. Au verset 5. Donc on dit à Joseph, ton père est très malade. Israël, son père c'est Jacob, Israël. Ton père est très malade. Il vient alors avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Et on annonça à Jacob que voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. Et donc Jacob s'assoit sur le lit. Et au verset 5, il dit, maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, donc les deux fils qui te sont nés, avant mon arrivée vers toi, c'est-à-dire avant que nous, on arrive avec tes frères, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Savoir que Ruben, c'était le fils aîné des douze fils de Jacob. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront désignés sous le nom de leurs frères dans leur héritage. Voilà ce que dit Jacob. Israël dit d'Éphraïm et de Manassé, ils seront à moi. Ils porteront mon nom, ça veut dire, hein, tout simplement. Ils porteront mon nom, Israël. Et donc il y a un truc bizarre qu'on lit, comme ça, il y a plein de passages dans la Bible que vous lisez qui sont un peu bizarres, quoi, des trucs, pourquoi il parle de ça, quoi. À un moment, il bénit, donc il se rapproche. Et au verset 11, je redescends. Au verset 11, Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Voici que Dieu me fait voir même ta descendance. Joseph les retira du genou de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous les deux. Éphraïm par la main droite. À la gauche d'Israël, à la gauche de Jacob. Donc, il met Éphraïm à la gauche de Jacob. C'est normal parce qu'Éphraïm n'était pas le premier-né. Et quand on bénit quelqu'un, c'est avec la main droite. Et il a mis Manassé à la droite de Jacob. Pour le bénir, parce que Joseph s'attendait vraiment à ce qu'il bénisse Manassé, de la bénédiction des patriarches, hein, en fait, aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Israël? Il a croisé les bras. Alors, on dit, le vieux, il devient sénile. C'est pas tout à fait ça. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa la main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains. Bien que Manassé fût le premier-né, il bénit Joseph et dit que le Dieu, en présence de qui ils ont marché les pères d'Abraham et d'Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons. Qu'on les appelle de mon nom, une nouvelle fois. Mon nom Israël, et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Et Joseph vit que son père posait la main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, Pas ainsi, mon père, pas ainsi. Car celui-ci, c'est le plus, celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa descendance remplira toutes les nations. » Il est béni ce jour-là et il dit, « C'est par toi qu'Israël bénira. » En disant que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. Je vais m'arrêter là, vous pouvez lire la suite. Je vous conseille même de lire la suite. Que dit-il d'Éphraïm ? Sa descendance remplira toutes les nations. Mélo à Goïm. Alors là, vous me dites, il y a une 13e tribu là dans Israël. Il y a les 12 fils de Jacob, dont faisait partie Joseph, et puis il y a Ephraïm qui porte son nom, mais à Goïm. Alors je vais le mettre en parallèle, ce passage-là, si vous êtes par un passage de l'Évangile, que je retrouve, j'espère que je le retrouverai. Il est parti où ? Que j'en ai fait. Si c'est Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. C'est encore un petit passage dans les évangiles, comme il y a eu un petit passage dans la Genèse. On se dit à quoi ça sert de savoir que Jacob, il a croisé les bras. Et dans l'évangile de Jean, il y a un petit passage aussi qui parle de quelque chose de très important, enfin à mon goût, à la lumière du passage de la Genèse. Jean, chapitre 11, verset 52. Je redescends. Jean, partir du chapitre 52, du verset 52, pardon. Le contexte, le Sanhédrin de Jérusalem décide de faire mourir Jésus. Parce qu'ils ont peur que les troubles fomentés fassent que Rome détruise le temple et détruise la nation d'Israël. Donc il dit non, lui, il bouge trop. Il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. Et d'ailleurs, il dit que c'était une prophétie puisque le Messie devait mourir pour tout le peuple. Et au verset 53, il dit, au verset 52, il dit, et non seulement pour la nation, je vais le lire un peu avant, comme ça vous comprendrez mieux, au verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était le grand souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous y n'entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. En un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ainsi donc, Jésus ne circula plus ouvertement parmi les Juifs, parmi Yehuda. Et il partit de là pour une contrée voisine du désert, qui s'appelle, dans une ville appelée Éphraïm. J'en dirai pas plus, je vous laisse à vos conclusions. Jésus savait qu'il avait une autre bergerie à rassembler. Il était venu pour les enfants d'Israël, mais il savait qu'il y avait aussi la bénédiction de Jacob qui portait son nom sur les tribus d'Éphraïm. Il savait qu'actuellement, il n'y a plus qu'une deux tribus, enfin une tribu et demie En Israël, il y a Yehuda, ce qu'on appelle les Juifs. Et puis la tribu de Lévi, où il y a les Kohanim, qui sont encore là, tous ceux qui s'appellent Lévi ou Kohen sont des Kohanim. Mais les autres tribus sont parties où? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est des enfants de Dieu dispersés, y compris ceux qui croiront et qui deviendront, qui seront sur l'olivier d'Israël. Il est dit dans les évangiles, qu'on aura, nous qui étions sans alliance, on a pris part aux alliances, on a eu le droit aux alliances en Jésus-Christ, par le Messie. Si on croit au Messie d'Israël, on a le droit aux alliances. Et pour moi, nous sommes Éphraïm. Nous sommes Éphraïm. On est des nations, on n'est pas des Juifs, on est goïm. Mais Éphraïm est un goï qui a porté le nom de Jacob, le nom d'Israël. Nous aussi. Voilà, donc j'aurais plein de choses à dire, mais là, quelle heure il est? 11h44. C'est presque un enseignement, il faudrait faire ça sur plusieurs semaines, tellement j'ai de choses à dire. Je vais finir par Jacques. Vous connaissez l'épître de Jacques? Au chapitre 2. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire, Yeshua le Messie. Qu'il entre dans votre synagogue un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y rentre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à la première place, place d'honneur, et vous lui dites au pauvre, toi, tiens-toi derrière, debout, ou bien assieds-toi en dessous de son marchepied, de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Écoutez, mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et vous ne traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le bon nom invoqué sur vous? Sans doute vous accomplirez la loi royale selon l'Écriture. Et là j'insiste sur le mot la loi royale. C'est plus que la loi royale. C'est la loi messianique. Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes et vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commets pas de meurtre ». Or si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez, agissez en homme. Qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde à celui qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est aussi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi ». sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien, les démons aussi y croient et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac en sacrifice sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Il te parle de Rahab après, prostituée. Et à la fin, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Abraham, le père de la foi. Est-ce que c'était que par la foi qu'il a été justifié? Il a cru en Dieu. Sa foi, c'était de dire, mince, Dieu m'a fait une promesse. Il m'a donné un descendant. Et maintenant, Dieu il me demande de le sacrifier, Isaac. Mais je crois que Dieu, je ne sais pas comment va faire Dieu, mais je crois que Dieu pourvoira. Je crois que Dieu pourvoira et je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire, il a failli sacrifier Isaac. Et à la dernière minute, un ange, parce que Dieu n'est pas non plus une idole, il déteste les sacrifices humains. Il a retenu la main d'Abraham en disant, maintenant je sais que tu as foi en moi. Mais il a fallu une œuvre pour ça. Il a fallu l'œuvre que Abraham, il n'a pas dit, oh bah j'ai foi en Dieu, hein, je crois en Dieu et tout. Sacrifice, bon, non, finalement Dieu, j'ai foi en Dieu, mais non, je ne ferai rien. Je te trouverai 36 000 prétextes pour dire, mais qu'est-ce que. Il est devenu. Dieu, qu'est-ce qu'il me fait là? Et nous, combien de fois? Dans notre foi, des fois, on est stérile. Alors entendons-nous bien, la loi ne justifie pas. C'est ce que dit l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, c'est une épître que Paul a dû faire parce qu'à un moment, chez les Nazaréens, il y avait des païens qui commençaient les gens d'Éphraïm qui commençaient à venir. Qui n'étaient pas circoncis, qui étaient idolâtres pour la plupart, qui venaient des anciens, qui mangeaient des. Qui faisaient des sacrifices dans des temples et tout ça. C'était pas terrible. Et puis ils venaient dans les synagogues. Et c'est pour ça tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez tiqué, mais j'ai dit, quand il vient dans votre synagogue, c'est la vraie traduction. C'est pour ça. Il est marqué dans votre assemblée. Mais c'est la traduction, c'est dans votre synagogue. Ils venaient et bon, il y avait des païens qui étaient mélangés avec des juifs dans la synagogue, quoi. Puis il y a certains juifs qui ont commencé à dire, ouais, mais attends, tu viens d'un synagogue, mais alors il va falloir que tu te fasses circoncire, il va falloir que tu fasses ceci, il va falloir que tu fasses cela pour être sauvé. Pour être sauvé. Et Paul, il a dit, non, attendez, qu'est-ce qui sauve? Seul le sacrifice de Yeshua sur la croix nous justifie. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la loi de Moïse, elle ne vous justifiera pas. Parce que ce que j'ai lu tout à l'heure, si vous faites 99,96% de la loi de Moïse, tout bien. Quand je dis la loi de Moïse, ce n'est pas le Talmud. Hein. La loi de Moïse écrite, déjà, c'est déjà... Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, déjà. Et écoute Israël. Déjà, ces trois trucs, si tu les fais à 99,96% tout bien... Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es justifié? Non. La loi ne justifie pas. Seul le sacrifice, comme l'agneau pascal à l'époque de Pessah, a sauvé le peuple juif de l'ange destructeur. Seul l'agneau pascal, on parlait de Jésus qui était l'agneau de Dieu, qui est le Messie, a sauvé et nous justifie. Maintenant, je prends le. Vous pouvez lire Galates. Il n'est pas parlé de sauver dans Galates. Vous reprenez tout l'épître aux Galates. Il est parlé de justification. De la loi qui juste, qui ne, que la loi ne justifie pas. Il ne parlait que de ça. Parce que les gens commençaient à dire, oui, mais la loi sauve. Non, la loi ne sauve pas. Par contre, à contrario, est-ce que c'est parce qu'on est justifié qu'on doit être sans loi? Quand je dis sans loi, c'est toujours ces trois principes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée. Non. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'établir. Notre sanctification passe par la loi, par ses lois. C'est une loi qui est dans notre cœur, hein, mais qui est aussi la loi de Moïse. J'aurais encore plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. J'en ai dit que la moitié, hein. La loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus le dit aussi dans d'autres passages, fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse. Fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Renouvelons notre intelligence et débarrassons-nous du Talmud chrétien. Il faut savoir aujourd'hui que le christianisme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le christianisme des premiers temps, ce que j'appelle les Nazaréens des premiers temps. N'a absolument rien à voir, parce qu'on y a rajouté l'Empire romain entre deux. Alors bien sûr, on était tombé bien bas, hein, avec les statues et tout ça. Après, il y a eu la réforme. On s'est rapproché de Dieu, on a connu le baptême du Saint-Esprit. Dans notre église, il n'y a pas de statue, parce qu'on suppose que les saints ne sont pas sur le mur, mais sont assis sur les chaises. Hein? Bien sûr qu'il y a eu un retour vers la vraie parole, déjà la lecture de la Bible. Vous savez que c'était interdit jusque dans les années 50. 1950, on n'avait pas de Bible en France. C'était juste réservé aux curés. Bah, dommage, hein, parce que quand le peuple commence à lire la Bible, on découvre des choses. Et c'est pareil, je dirais, pour le judaïsme. Le judaïsme de maintenant n'a rien à voir avec le judaïsme de Jésus. Parce qu'il y a eu le Talmud, il y a eu des tas de choses qui se sont rajoutées. Et c'est vrai que quand vous allez en Israël et que vous faites un Shabbat en Israël, des fois, ça va loin, quoi. Les ascenseurs, t'as pas le droit de. T'as les ascenseurs qui montent à tous les étages, qui descendent parce qu'il ne faut pas appuyer sur un bouton. Il y a plein de choses. Je comprends Jésus qui dit à un moment, s'est fâché en disant le Shabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Parce qu'ils ont tellement rajouté de trucs que c'est une véritable contrainte, ce n'est pas un repos. Hein. C'est vraiment, attends, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Mais nous, on est comme ça aussi, c'est-à-dire, c'est pas. Des deux côtés, hein, on est comme ça. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? La loi, elle est dans notre cœur. Enfin, j'espère pour vous. Elle est dans notre cœur, mais c'est pas parce que j'ai la loi dans mon cœur que je dois faire n'importe quoi. Il y a des lois, des préceptes qui sont encore d'actualité. Mais peut-être qu'on fera un enseignement là-dessus, quand j'en saurai plus. Parce que même moi, il a fallu que je renouvelle mon intelligence. C'est dans Romains aussi ça. Ne vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre intelligence. Parce que j'ai tellement été formaté par le catholicisme. On croit que le catholicisme, c'est Jésus. Il est loin du catholicisme quand même. Hein. Il est presque plus proche du judaïsme même, encore aujourd'hui. Mais voilà, et il faut se déformater. Se déformater, parce qu'il va arriver un temps où Éphraïm et Yehuda ne formeront plus qu'un. Et il y a ce temps-là, et à un moment, il dira, Yehuda ne sera plus hostile à Ephraïm. Vous savez qu'en ce moment, entre les Juifs et les chrétiens, bon, avec ce qu'on leur a fait pendant 2000 ans, il y a de quoi. Entre Juifs et chrétiens, il y a quand même... je dirais même entre chrétiens et juifs, hein, les mensonges du christianisme quand on disait que les juifs ils ont tué Jésus, ou des choses comme ça, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces dans les croisades, ça a laissé des traces dans la Shoah. Il va arriver un temps où Dieu, des deux, rassemblera. Mais il faut savoir les conséquences de ça. Avoir en tête les conséquences de ça. Et c'est peut-être le message de ce que Dieu a à dire à l'Église au XXIe siècle. On ne peut plus faire sans. Israël existe. Dieu a-t-il rejeté son peuple? S'il a rejeté son peuple, ça veut dire que la lune et les étoiles, le jour et la nuit n'existent plus. Non, il n'a pas rejeté son peuple. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et c'est cette vérité qui nous libère, c'est cette vérité qui nous sanctifie, Seigneur. Oui, il est dit dans ta parole, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Seigneur, nous voulons garder tes commandements, ceux que tu nous as donnés, ceux que tu nous as instruits par ta propre vie, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et de savoir ce que ça veut dire réellement, concrètement, dans chaque jour de notre vie, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Mais tu nous as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous aider, nous convaincre de péché et nous guider dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Dans le nom de Yeshua. Amen. Bon dimanche.